Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Rappelez-vous sur Sud Radio et Sophie de Menton a déjà commencé à parler. Oui, Sophie est avec nous comme tous les lundis. Bonjour Sophie.
Pauvres auditeurs, mais oui, bonjour à tous.
Michel Taupe, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour, bonjour à vous. Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front Républicain d'Intervention contre la Corruption.
Bonjour.
Et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Plusieurs sujets. Le bac est-il en train de disparaître? C'est la question qu'on peut se poser. C'est la raison, c'est une des raisons pour lesquelles certains enseignants font la grève aujourd'hui et refusent de surveiller le bac. Est-ce que c'est une manière de petit à petit passer au contrôle continu? Il y a 40% de contrôle continu. Dites-nous ce que vous en pensez. Racontez-nous vos souvenirs de bac. Racontez-nous également si vous avez des enfants, des petits-enfants qui passent le bac aujourd'hui. On va parler des quotas en matière d'immigration. Tiens, revoilà ce sujet. C'est une sorte de serpent de mer. On ne sait pas très bien dans quel cadre ça va se situer, mais en tout cas le ministre je confonds le ministre de l'Éducation et le ministre de l'Intérieur, c'est pas mal.
C'est
à chaque fois je me trompe
en disant les trucs.
Heureusement que c'est pas attaché.
C'est pas la même chose. On va en reparler. Et puis le service national universel lancé aujourd'hui, est-ce qu'il faut restaurer le service militaire carrément? Et qu'en pensez-vous? Moi j'ai eu des trucs que je trouve plutôt pas mal sur ce service national universel. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Donc commençons peut-être avec. Sophie, on finira avec vous parce que ça concerne le bac. Frédéric.
Ah, c'est ni un coup de cœur ni.
Oui, c'est ce qui a retenu votre attention dans l'actualité.
C'est une actualité extrêmement triste qui s'est en fait télescopée liée au contexte des attentats. On a appris le décès d'une personne à Nice qui avait perdu sa femme et son petit-fils. Il est sans doute mort de chagrin. Et puis, on a appris également que Guillaume Vallette, qui s'était suicidé quelques mois après le Bataclan, a été reconnu comme 131e victime des attentats du 13 novembre 2015, alors qu'il est décédé deux ans après. Alors ça amène à nous interroger, au-delà de l'énorme tristesse que tout le monde peut ressentir, sur, voilà, il y a une focalisation médiatique très forte pendant ces périodes. On parle des morts, on a tendance à moins parler des personnes blessées, personnes qui s'en tirent, mais qui ne s'en tirent jamais dans leur tête. Et on a deux exemples particulièrement tristes. Voilà, c'était simplement ce que je voulais dire.
Vous avez évidemment mille fois raison. Sauf que on ne peut pas. L'actualité est tellement anxiogène, elle est tellement terrible, il y a tellement de drames tous les jours que j'allais presque vous dire, il faut un peu d'oubli, quitte à ne pas les oublier.
Je ne parlais pas d'oubli, je parlais seulement de parler de ces personnes qui.
Parler jusqu'à quand?
Non, mais
il y en a encore qui sont traumatisés tous les jours et qui vont l'être dans 5 ans.
Il y a des crimes prescriptibles qui ne s'oublieront jamais, doivent jamais s'oublier.
Les attentats
en font partie.
C'est pas une question de ne pas les oublier.
Le travail journalistique, et je ne suis pas journaliste, c'est aussi en lien avec des événements d'actualité, essayer de les recontextualiser. Ne pas oublier, bien sûr, la.
Ne pas oublier.
Non, ne pas oublier
c'est
également.
C'est pas oublier que ces gens-là existent.
Concrètement.
Mais c'est de dire que concrètement, moi, j'ignorais. Je pense qu'on le sait intrinsèquement.
Mais on vient de l'apprendre. Là.
Mais de dire qu'il y a des gens qui sont meurtris.
Oui, moi, je vous donne un exemple. J'ai travaillé il y a une quinzaine d'années avec une jeune fille qui avait été rescapée de l'attentat de Saint-Michel de 95, et elle ne pouvait plus prendre les transports. Elle a fait un travail énorme sur elle. Même, voilà,
c'est horrible, et je le conçois. Il n'y a pas une seconde.
Cela n'empêche pas qu'il ne faut pas se focaliser que sur ça, qu'il faut travailler sur l'actualité heureuse. C'est simplement.
On
n'est pas sur une dimension commémorative.
Sophie, qu'on parle du couple américano-français de 98 et 94 ans qui nous a émus. Ça, ça donne de l'espoir. L'amour n'est jamais mort.
Et voilà, c'est pas anxiogène. C'est que moi, j'ai trouvé absolument remarquable le fait que Le Parisien dimanche consacre 4 pages à cette reconnaissance.
Très bien, devoir de
mémoire. Et j'ai trouvé que ce sont des choix éditoriaux qui sont en fait positifs, qui sont utiles, parce qu'ils nous rappellent qu'il faut qu'on est en guerre, qu'il faut être vigilant, qu'il y a des victimes beaucoup plus nombreuses que les 235 morts des attentats.
C'est vrai, Michel. Voilà, d'un autre côté, les drames tous les jours, c'est trop aussi.
Mais c'est presque pas le sujet. Le sujet, c'est de dire. Pensons à ces gens-là.
Merci.
Alors, Jean-Luc Touly.
Ça m'embête parce que je ne vais pas parler de Balkany. Je vais parler du président de la métropole lilloise qui a été attaqué par un certain nombre. D'abord par un journaliste de Mediacité, puis ensuite par notre association, le FRIC, sur des notes de frais absolument inconsidérées. Et il a démenti en disant tout ça n'était pas vrai. Et on vient d'apprendre qu'il a remboursé 20 000 euros de notes de frais supplémentaires. Donc c'était un coup de cœur en disant que quand même, il y a des gens qui viennent à la raison. Mais ça, on n'oublie pas quand même...
Mais bravo à l'association surtout.
Ben parce qu'il a fait payer ça sur les...
Ouais. Non, mais
sur nos impôts,
de...
quoi. C'est ça qui n'était pas normal.
Donc, vous avez eu raison, c'est ça.
Et je voulais dénouer un peu le pauvre Balkany.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas que lui, quoi.
Il n'y a pas que lui. Non, non. Aujourd'hui, ses avocats vont plaider. Michel, vous vouliez revenir sur l'interview de Laurent Ruquier hier dans le journal du
alors,
dimanche.
Alors, non, plutôt. Non ah, alors, moi, ah, c'était bon. Plutôt sur Valérie Boyer qui s'est fait attaquer bille en oui. tête par. Notamment par un philosophe.
Par Raphaël Enthoven. Voilà, parce qu'il faut, il faut expliquer que Valérie Boyer a publié sur Twitter une vidéo dans laquelle elle déplore le recul des parlementaires sur le port du voile. Voilà. Des accompagnatrices de sorties scolaires, on en a parlé ici vendredi, et elle porte une croix, donc il y a eu un débat qui s'est engagé avec Raphaël Enthoven.
Raphaël Enthoven, je trouve ça absolument scandaleux, lui a reproché, dans même temps condamné, le fait que des mamans voilées accompagnent des enfants en sortie scolaire, alors qu'elle-même porte une croix autour du cou. J'ai trouvé cette confusion de la part d'un pseudo-philosophe, parce que franchement, absolument confusante, pour le moins qu'on puisse dire. Et surtout.
C'est pas exactement. C'était maladroit.
Attendez, ces propos sont. J'ai vu quel pire avocate de la laïcité qu'une députée furieuse que les mamans accompagnatrices portent le voile, mais qui arbore elle-même une croix bien visible.
Elle défend la laïcité. En fait.
Attendez,
je fais deux secondes, c'est vrai.
Plein de femmes et d'hommes qui portent des croix, des Magen David, des croissants.
Des kippas,
non, mais autour du cou, ça n'a rien à voir avec le fait
de porter
un voile.
Mais ça n'a rien à voir avec le voile.
Mais je demande, si, signe religieux, le sujet c'est le signe religieux.
Ostentatoire.
Voilà, ostentatoire. Donc, Enthoven a juste voulu dire
quelle meilleure façon de donner le sentiment que laïcité est l'alibi d'une guerre de religion.
Ben voilà, je suis d'accord.
Donc c'est
la laïcité est l'alibi d'une guerre de religion, je suis d'accord.
Vous trouvez ? Donc vous êtes pour les mamans
non,
voilées,
je
pour
dis
les sorties
que
scolaires ?
Non, on est arrivé à la religion de la laïcité aujourd'hui et que c'est très compliqué parce que comment va-t-on faire la différence ? Bien sûr qu'une croix, il faut pouvoir la porter, bien sûr qu'il y a des signes qui sont beaucoup moins violents, même s'ils sont un peu ostentatoires, bien sûr. Mais donc la difficulté aujourd'hui, et je pense que c'est... Évidemment, Twitter, c'est réducteur comme pensée. Je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'à partir du moment où effectivement on est là en train d'éputer au Parlement supposé être totalement laïque, on a une petite croix, c'est peut-être pas malin.
Alors, je vais vous lire quelques réactions.
La neutralité du service public,
Régis
de Castelnau a
tweeté quelle
pire règle dans notre société française.
Oui. Quelle pire démonstration de la désinvolture intellectuelle que de prendre la pose en assimilant un colifichet, si au voile, instrument politique déterminé visant à imposer une infériorisation, un effacement de la femme dans l'espace public. C'est-à-dire que les deux ne sont pas comparables.
Bien sûr.
L'opinion publique telle qu'on la mesure, c'est quand même trois quarts des Français opposés à ce que des personnes voilées accompagnent des sorties scolaires, car je pense pour beaucoup de Français, la logique c'est qu'une sortie scolaire, même si elle se déroule en dehors de l'enceinte d'un établissement scolaire, une sortie scolaire, c'est l'école. Et donc la loi s'applique dans
c'est
ce cadre-là.
C'est un projet pédagogique, c'est une extension de la salle de classe. Oui, mais alors pourquoi ont-ils retiré cet amendement ? Pourquoi ont-ils retiré cet amendement en catimini ? Et si Sud Radio en a parlé, moi je dois quand même constater que très peu de médias en ont parlé. Très peu de médias ont fait état de ce retrait en catimini de cet amendement. Ça peut être aussi perçu comme étant un recul de plus, une compromission de plus, face à une pression qui n'est pas celle... Peu importe quelle religion, mais il y a aujourd'hui une pression très forte d'organisations qui cachent derrière des discours sur l'islamophobie, etc., alors qu'il ne s'agit pas du tout de cela.
Mais c'est insoluble.
Et moi, j'étais très étonné, encore une fois, du silence qui a entouré, ou du quasi-silence, qui a entouré le retrait de cet amendement.
A signalé également le tweet de Annie Ramadan, qui est donc le frère de Tariq Ramadan. Alors lui, il a été troublé par le décolleté. Il dit de plus une croix ostensiblement visible sur un large décolleté offre un contraste qui ne plaide pas en faveur de la morale du Christ.
C'est terrible.
Donc Marilyn Maizot lui dit, je vous conseille l'énucléation, ça vous évitera de voir ce sein que vous ne sauriez voir et d'halluciner des pièces de 2 euros à la place des femmes non voilées. De toute façon, voilà.
C'est sûr qu'il a été à bonne
école
avec son frère.
Mais comme quoi, c'est un vrai sujet terrible.
Ouais, c'est un sujet.
Parce que je ne sais pas aussi où on s'arrête, où on commence.
C'est facile, la loi, tout simplement. C'est-à-dire la neutralité du service public.
C'est la neutralité du service public.
Je suis d'accord, mais du coup, la petite croix, on en fait quoi ?
Mais non, mais elle a complètement...
Non, mais je demande, la petite couronne,
on
fait quoi
stigno,
mais c'est pas un stigme... C'est pas
la neutralité du service public, ah. C'est un signe religieux.
Et les Juifs qui portent la kippa, je veux dire, la plupart le portent, ils mettent... Beaucoup mettent un petit chapeau ou un béret, etc. Ouais. Et effectivement, je pense que ça peut... Et ensuite, il y a aussi la dimension
ça
de prosélytisme.
Oui.
Mais il y a aussi la dimension de prosélytisme. La réalité, c'est que, pas chez toutes les femmes, les mamans voilées, parce que pour beaucoup, notamment dans les décennies passées, le portait par tradition culturelle.
Ouais, enfin,
mais elle est aussi devenue, depuis 10 ou 20 ans, un instrument de conquête de prosélytisme.
Mais il faut se prononcer.
Et notamment dans certains quartiers.
Où, quoi et quand.
Où elles sont très majoritaires.
Bah, à l'école, ça me semblait être quelque chose d'assez clair. Et cet amendement qui a été effectivement retiré en catimini est assez inquiétant. On va passer à votre coup de gueule, Sophie, qui concerne...
Alors, écoutez, il se trouve que ce matin, donc, et on pense à eux et on a des
frissons.
des pensées très positives, ceux qui passent le bac, en particulier le bac de philo. Et je trouve ça extraordinaire, d'ailleurs, parce qu'un des sujets de philo était le travail divisif. Et quand on voit, et l'autre c'était la morale, est-elle la meilleure façon de gouverner, en gros. Et quand on voit qu'on ose, aujourd'hui, jour du bac, faire la grève des contrôles, c'est-à-dire les surveillants font une grève pour ne pas contrôler les élèves au bac. Alors c'est très grave, parce que, bon, on va se débrouiller, je pense qu'on va effectivement trouver des remplaçants, mais vous vous rendez compte l'image qu'on donne aux jeunes ? Alors en plus, ça veut dire que, cette notion de contrôle, ça veut dire que, évidemment, c'est la triche. Parce que s'il n'y a pas de contrôle, on peut imaginer qu'ils trichent. Sinon, on ne les contrôlerait pas.
Enfin, je pense que c'était plus dans l'optique que le bac soit annulé.
Oui, mais ça induit autre chose. Ça induit, vous voyez, on vous contrôle et s'il y a grève, ce ne sera pas valable parce que vous pourriez tricher. Et je trouve ça terrible. Parce que c'est une atteinte à la morale, à l'éthique, au droit de grève qui est dévalorisé par ce fait. Et donc, c'est un vrai coup de gueule parce que ce n'est pas bien.
On voulait en parler aussi. Michel, on va y revenir dans un instant. Dites-nous ce que vous en pensez donc, de cette grève et puis surtout du bac. Le bac est-il en train de disparaître ? Le ministre de l'Éducation donc, prévoit 40% de contrôle continu, 2 épreuves seulement en juin. 0826-300-300. On est ensemble sur Sud Radio avec vous.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio et le débat continue tout le temps, on parle tout le temps, on débat, on échange.
Ah là là,
est-ce qu'on peut se mettre d'accord ? Je ne sais pas. Mettons-nous d'accord.
Ce serait un vrai sujet d'émission.
Le bac est-il en train de disparaître ? Est-ce qu'il est encore utile ? Est-ce qu'il faut le remplacer par le contrôle continu ? On a Chantal en ligne avec nous. Bonjour. Non, Christiane, pardon, c'est Christiane
oui,
de Toulouse.
Oui, c'est moi.
Bonjour Christiane.
Bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Merci de votre émission.
Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ?
Eh ben moi, écoutez, je pense qu'il faut pas le supprimer, mais je pense qu'il faut le renforcer.
Oui, c'est-à-dire
C'est-à-dire que pour du français, pour des mathématiques, pour de l'histoire, pour plein de choses, on passe pas le bac avec 8 de moyenne, madame. Aux messieurs.
Oui.
Je pense pas, parce que déjà avec un bac, on peut avoir certaines opportunités de passer des examens ou des concours ou autres, ou même dans la vie active si on ne veut pas aller plus loin. Mais je pense que c'est essentiel d'avoir, de parler français, d'écrire sans faire trop de fautes. Et de nos jours, c'est une catastrophe. Oui. Avec 8 de moyenne, on ne peut pas, on est obligé de faire la barrière pour des écoles supérieures, pour les facs et autres. On voit des gens qui ne savent pas ni lire, ni compter, ni les pourcentages, ni rien du tout, et qui vont passer le bac.
Ouais. Alors madame, vous avez partiellement raison, parce qu'il y a 60% des jeunes qui n'arrivent pas au bout de leurs études supérieures. Donc effectivement, c'est pas une garantie de réussir ses études. Voilà. D'un autre côté, il faudrait orienter avant, et d'un autre côté, je pense quand même qu'au niveau du bac aujourd'hui, ils savent vaguement quand même compter, et que c'est plutôt, ça devrait être le BEPC d'ailleurs, brevet pour lire, écrire et compter, ça devrait être ça. Mais c'est vrai que du coup, ce bac est inutile et il faut trouver un autre système d'orientation.
Mais 100% d'accord avec Sophie, à mon avis, le problème, ce n'est pas le bac. Le problème, c'est ça a été l'objectif affiché par Jean-Pierre Chevènement de 80% d'une classe d'âge au bac. Et c'est dramatique parce que ça a largement contribué à un chômage de masse, à un décrochage complet entre les besoins de l'économie, pas que des entreprises, de tous les services publics, des associations. Et ce qu'on apprend, et ce qu'apprennent 80% d'une classe d'âge ou plus, il y a un décrochage complet. En Allemagne, en Angleterre, il n'y a pas le même différentiel entre la formation de culture générale et les besoins du marché. Et pour dire les choses autrement, c'est une manière aussi de décrédibiliser, comme on en a malheureusement trop l'habitude en France, tous les métiers manuels, toutes les formations
et comment,
techniques.
Mais comment,
voilà.
Mais
et on le voit aujourd'hui avec le développement de l'Internet où on manque de recrues technologiques dont toutes les entreprises ont besoin.
Pendant très très longtemps, c'était quand les enfants ne réussissaient pas, on les orientait. Mmh. On les orientait, voilà. Mmh. Ça s'appelait leur orienter un enfant.
Mmh. Alors que c'est beau le mot orientation, c'est devenu négatif à cause de ça.
Sauf que l'orientation n'existe pas. On vous dit, voilà, votre fille, moi on avait dit à ma fille, elle est gentille, elle devrait faire infirmière. Non, elle n'avait pas du tout envie d'être infirmière en 3e.
Parce qu'on a vécu ça comme un déclassement.
Oui, mais qu'il n'y a pas de... d'estimation de ce que des aptitudes des enfants, de ce en quoi ils sont bons, et c'est vrai que c'est difficile. Quand en seconde, on vous dit, on va mettre votre enfant dans une filière technologique, vous n'avez peut-être pas forcément
envie. Il y en a qui
envie.
Se révèlent à 22 ans.
Ouais,
hein.
Ouais.
Non,
Jean-Luc.
Oui, vous dire, le développement des sites Internet, organisés souvent par des profs, pour que les élèves qui n'ont pas bien suivi, qui n'ont pas beaucoup travaillé parce qu'ils ne s'intéressaient pas, mais obtiennent quand même leur bac, est quand même un petit peu inquiétant. Pourquoi ces sites se développent, sites probablement marchands, donc ça veut dire que quelqu'un qui ne fait rien toute l'année, mais dans le dernier mois, va s'abonner, etc.
Il n'aura pas son bac quand même. Oui. Est-ce qu'il aura, les amis,
Je ne sais pas, parce que quand même, il y a combien, 88% qui, au bout du bout, obtient son bac.
Mais 88%, donc, 80... ça concerne à la fois les filières technologiques et les filières générales.
Voilà. Le bac.
C'est le bac. Concernant la grève, un auditeur nous dit, le SNEF fait grève, syndicat totalement politisé, une honte nationale. Ces gens rejettent la réforme pour cause d'inégalité, alors que nous avons le système le plus inégalitaire d'Europe. Il a dû vouloir dire égalitaire, oui. Pour avoir une fille en seconde, je connais parfaitement la réforme et à mon époque, j'aurais sauté de joie face à cette réforme. Effectivement, l'idée, c'est qu'il y ait plus de contrôle continu et peu moins. Donc,
justement,
pourquoi les profs n'en veulent pas?
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis qu'on travaille sur le bilan de Jean-Michel Blanquer, notamment dans des enquêtes IFOP pour Sud Radio et Fiducial, on voit que systématiquement, il y a une adhésion majeure, massive à toutes ces propositions, l'uniforme, la Marseillaise, toutes les propositions qui sont vues comme un retour aux fondamentaux. La seule mesure qui a un petit peu coincé, c'est quand la réforme du baccalauréat. Il y a l'idée, il y a quand même un attachement fort, symbolique. Hein, toutes les radios, tous les médias ce matin ont parlé du baccalauréat à cet examen, même si, comme le dit Michel Taube justement, la barrière maintenant, c'est plus le baccalauréat, c'est la licence. C'est comme avant, ça a été le DUG. C'est-à-dire que là où il y a vraiment un vrai écrémage et une vraie orientation, où des personnes qui se retrouvent en vraie difficulté en termes de parcours, ce n'est plus le baccalauréat, c'est après à l'université.
Oui, absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, alors vous avez quoi comme souvenir du bac,
hein? Moi, ça fait 50 ans, alors j'ai plus trop de souvenirs. Hein. C'était un bac, je ne sais pas si ça doit plus exister, G3, technique de commercialisation. Et ensuite, je suis allé dans le premier IUT de France, dans lequel il y avait Lionel Jospin comme professeur d'économie et Alice Saunier-CIT comme directrice, qui est devenue ministre.
Ah oui, c'est hein,
Et quand on était dans les 10 premiers de la promotion,
il y a les promos de l'IUT. Voilà. C'était quel IUT alors ?
L'IUT de Sceaux.
De Sceaux.
Ah oui, il est très connu, c'est un très bon IUT.
Un grand IUT.
Michel, vous vous souvenez de votre bac ?
Oh bah moi, c'était mon épreuve de philo, justement. J'étais très marqué par le sujet que j'ai eu à commenter. C'était un texte de Les caractères de la Bruyère. Difil est un oiseau qui commence par un et finit par mille. Et c'est l'histoire d'un monsieur qui est tellement passionné par les oiseaux qu'il se coupe de tout le monde. Je sais pas, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Après, je trouvais ce texte très moralisateur, finalement. Mmh. Et comme beaucoup de sujets de philo qu'on nous donne.
On m'a posé la question ce matin sur CNews, donc j'ai pu me souvenir et me remémorer. J'avais eu un sujet de philo en série économique, série B, qui était « L'État restreint-il la liberté individuelle ?» J'étais très content de moi, mais je n'ai eu que 10. Sur 20.
Moi, je me souviens
pas de mon sujet de philo. J'étais bonne en philo.
Oui, moi aussi. Il y avait un texte d'Isaac Bashevis-Singer, je me souviens. Mais je l'ai passé
à Janson de Sailly, pas très loin d'ici.
Mais j'ai eu une bonne note. Coefficient 8, c'était le rêve.
Mais là, quand on fait la pub des lycées, moi, c'était le lycée Bartholdi à Colmar.
La morale est-elle la meilleure des politiques? C'était un des sujets en série US. Le travail divise-t-il les hommes? Ça vous aurait plu, Sophie, je pense, que le sujet.
Je suis sur l'art aussi.
Oui, j'aime beaucoup. Moi, c'est celui qui m'aurait le plus plu. À quoi bon expliquer une œuvre d'art?
Est-ce qu'il faut être contemplatif ou est-ce qu'il faut faut une initiation et remettre l'art dans...
Il s'est obligé de l'expliquer.
Alors, c'était ce qu'on s'est dit ce matin.
Un sujet qui est plus dans l'actu, la pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain?
Répétez.
La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain? C'est en S, donc intéressant.
C'est évident.
Et reconnaître ses devoirs et se renoncer à la liberté, pareil en série scientifique.
Mon fils a dû choisir celle-là.
Fils passe le bac.
Alors,
on a des auditeurs alors qui sont plutôt d'accord avec la réforme du bac. Cédric nous dit c'est une bonne chose la réforme du bac. Ma fille est travailleuse, elle a des bonnes notes toute l'année. Par contre, elle est émotive, stressée le jour J du bac. Puis nous sommes obligés de la suivre avec ma femme. Elle est en première.
J'ai le français aussi qui se passe aujourd'hui. N'oubliez pas le bac français, les pauvres petits, on les oublie en première.
C'est en première.
C'est vrai.
Mais 40% de contrôle continu et deux épreuves, c'est dû en même temps macronien. C'est comment concilier tout et son contraire. Mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de trouver un équilibre entre préserver l'institution, parce qu'on y est très attaché, et en même temps, ne pas tout miser sur une seule épreuve ou quelques épreuves.
Mais de toute façon, la France est quand même très, 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 très difficile à réformer. Oui. Et là, l'avantage de Blanquer, c'est qu'il y va doucement, progressivement. Et je crois que pour toutes les mesures, ce qui pose un vrai problème en économie, il va falloir faire ça tout doucement, à pas de loup.
Alors, Claudine nous dit, j'ai fait un CAP, la plupart des gens pensaient que j'étais une quiche. Zut, j'ai perdu son truc. Je pensais que j'étais une quiche en tout, alors que j'ai un QI de plus de 130, mais le système scolaire ne me convenait pas. Et c'est bien la question aujourd'hui qu'on peut se poser sur ce sujet. Sandra nous dit, je trouve ça très bien le contrôle continu pour les élèves qui sont en stress. Ma fille passe son bac français, nous dit Claudine aujourd'hui. Donc Sandra nous dit, moi j'ai mon bac mention repêche. Ça arrive même au meilleur. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Et revoilà le sujet sur les quotas en matière d'immigration. C'est Christophe Castaner qui a annoncé ce dimanche dans le JDD que le gouvernement était prêt à débattre en septembre au Parlement de l'instauration de quotas migratoires en France, à l'exception du droit d'asile. Ce matin, Aurore Berger évoquait des quotas en matière d'immigration économique. On voit pas bien le sujet, quoi. What's the point, on dirait.
Surtout, c'est un vrai serpent de mer. Ouais. C'est évoqué pour la première fois par le ministre d'Intérieur de 2005, un certain Nicolas Sarkozy. C'est au cœur de son programme avec cette notion d'immigration choisie. Force est de constater qu'il ne l'a pas fait pendant qu'il était
comme
au pouvoir.
Oui.
C'est vrai que sur le papier, ça peut se tenir. Sur le mode, essayons de choisir une sorte d'immigration adaptée aux réalités économiques. Il y a la question de l'immigration estudiantine qui a du plomb dans l'aile vraiment, une vraie perte compte tenu de l'augmentation de tous les droits d'inscription universitaire. En tout cas, c'est un sujet qui clive l'opinion publique, parce que l'immigration, il faut toujours le rappeler, c'est un sujet qui fabrique de manière assez extraordinaire du clivage gauche-droite. Et sur ces sujets, alors que sur beaucoup de sujets, notamment économiques, il y a des différences très fortes entre sympathisants de droite et sympathisants du Rassemblement national, sur ces sujets, ils sont extrêmement proches, voire en fusion.
Et c'est un sujet qui n'a pas été traité par la majorité actuelle, globalement, qui a fui le sujet de l'immigration. Ce qu'on peut comprendre, parce
qu'il y a eu la loi quand même,
avec
l'immigration.
Oui,
quand même.
Et revenir sur des quotas, ça peut être le pire comme un bien. Aux États-Unis, c'est vrai qu'il y avait une immigration choisie, et quand on a besoin de secteurs économiques, on a accepté de les faire venir. C'est très compliqué, je vois pas comment ils vont s'en sortir, parce que déjà en France, en Europe en tout cas, il y a quelque chose de très particulier, et c'est vrai que les entreprises font appel à des travailleurs étrangers, des travailleurs qui ont une libre circulation. Donc qu'est-ce que ça va donner?
Oui. Je signale quand même qu'au Québec, ce week-end, il y a deux projets de loi qui ont été adoptés, laïcité et immigration. C'est-à-dire que le gouvernement québécois s'est vraiment distingué des autres, du gouvernement fédéral canadien, en imposant la laïcité dans les services publics, dans un certain nombre de services publics, mais aussi en décidant d'imposer également des quotas d'immigration. Donc évidemment, ça fait beaucoup polémique, mais c'est un vrai sujet qui concerne beaucoup de pays.
C'est une approche plus anglo-saxonne, plus pragmatique, de dire on fixe des quotas par pays. Moi, j'ai constaté, j'étais très étonné, lorsqu'Emmanuel Macron a mis dans le grand débat national la question de l'immigration, ça a fait flop. Il y a eu très très peu de propositions, de débats, il n'y a pas eu de polémique pendant le grand débat national.
Comment on l'explique, ça, justement?
Est-ce que ce n'est pas l'approche des municipales?
Peut-être que les Français ne considèrent pas autant que certains politiques qu'il s'agit là d'un vrai problème.
La question que je me suis posée, c'est pourquoi on voit ressurgir ce thème, vous le disiez, qui est un serpent de mer qui a été évoqué déjà de nombreuses reprises. Pourquoi, là, d'un seul coup, Christophe Castaner ressort
ce... Édouard Philippe a annoncé qu'il y aura un débat national tous les ans sur l'immigration au Parlement. Un débat dont on se demande effectivement...
Un débat pour dire quoi et pour faire
Donc il prépare l'ordre du jour, il prépare le menu du prochain débat. Donc effectivement, moi je pense que c'est plus pour secouer le cocotier, pour nourrir le débat politicien, mais ça ne sert pas à grand-chose si ça n'est pas suivi
des faits. Il y a quelque chose de nouveau sur la table, tous les jours. Donc ça engendre des frustrations et des exaspérations, parce que ce qui est important, c'est de montrer des choses concrètes réalisées, comme le service militaire. D'ailleurs, au moins, ça a un peu vu un peu le jour.
C'est peut-être la volonté, donc, à la poche des municipales, de jouer encore le Rassemblement national contre, effectivement, Macron, quelque part. C'est de couper l'herbe sur le pied, on va en parler nous-mêmes. Ça peut être aussi... un problème électoraliste.
En tout cas,
en matière d'immigration, comme le disait Frédéric David, je pense que l'acte majeur de l'ère Macron, qui a eu le plus d'effet, ça a été l'augmentation des droits d'inscription des étudiants étrangers en France, qui, elle, là, a produit des effets considérables, a considérablement réduit le nombre d'étudiants, et surtout a fait que ces étudiants africains, asiatiques, sud-américains choisissent d'aller faire leurs études ailleurs qu'en France, parce qu'ils y trouveront plus de bourses.
Et je pense que le préjudice,
oui, mais il y a beaucoup plus de bourses aux États-Unis, et que le préjudice est considérable en termes de rayonnement de la France.
Oui, mais ça demandait aussi une fortune.
On a Jean-Louis en ligne avec nous. Jean-Louis, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Sur ces quotas.
Je vous écoute concernant les quotas et j'entendais tout à l'heure que vous parliez d'un serpent de mer. C'est vrai que c'est à chaque fois qu'il y a des difficultés et des problèmes dans le pays, on le voit avec, je reviendrai sur le sujet des gilets jaunes, ne serait-ce que ça, que ces manifestations qui n'en finissent pas, à chaque fois il a été question de trouver une autre manière. Vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que ce serpent de mer revient. Mais moi je dirais parce que c'est une nécessité électoraliste, politicienne, c'est une vieille pratique qui est là, qu'à chaque fois qu'il y a une grosse difficulté, on trouve qu'il y a l'immigré, l'étranger qui peut avoir tort, et c'est toujours facile de désigner l'étranger. L'étranger comme étant le responsable, le coupable possible d'une grande dépense, d'investissement économique trop important, regardez que l'instabilité d'où elle vient. Non, l'instabilité politique en France, elle vient pas du tout de l'immigration, contrairement à ce que ça pourrait laisser entendre. On voit que...
Vous êtes contre l'instauration de ces quotas?
Mais en réalité, c'est complètement hors sujet. C'est une distraction dans la discussion politique actuelle qui consiste à vouloir faire en sorte que les Français vont débattre d'un sujet qui ne les concerne pas, comme vous le disiez tout à l'heure. Sarkozy a perdu avec sa recherche de vouloir récupérer une thématique qui était de l'extrême droite. La France, en fait, même si les Français sont rechigne parfois, désigne pour certains les immigrés, on le voit, on se souvient de ce sketch où il y avait finalement le boulanger, il est parti, mais c'était le boulanger, c'était l'étranger qui nous fabriquait notre pain. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. La France est un pays cosmopolite, il ne faut pas oublier ça.
Vous avez totalement raison, sauf que quand c'est illégal, le problème aussi, c'est de laisser sur notre territoire tous ces gens dans l'illégalité, qu'on n'arrive pas à loger, qu'ils ne trouvent pas de boulot. Et donc, c'est surtout ça qui est inquiétant. Bien sûr qu'on est cosmopolite, mais quand vous voyez les urgences et les hôpitaux avec des gens qui sont arrivés dans les 3 derniers mois pour se faire soigner, et l'été, on a des afflux pour se faire soigner, évidemment qu'il faut soigner tout le monde. Évidemment qu'on ne les refuse pas. Mais est-ce qu'on peut vraiment continuer comme ça? Je pose la question.
Le quota n'a rien à voir avec l'immigration clandestine. Ça n'a absolument rien à voir.
C'est une immigration économique, c'est-à-dire d'accepter ou non des étudiants ou des ingénieurs,
sinon,
des gens
illégalement.
Le drame, c'est que effectivement, c'est un serpent de mer. C'est-à-dire qu'il y a déjà 20 ans, on nous promettait qu'on allait le mettre en place et ça n'a jamais été ne serait-ce que tenté. En fait, je pense que derrière l'idée des quotas, il y a l'idée qu'on puisse gérer les flux migratoires, qu'on puisse maîtriser les flux migratoires et qu'on puisse de façon rationnelle et préméditée dire on va prendre tels immigrés et pas tels autres. Voilà. Et je pense qu'on est dans une époque où malheureusement, il y a tellement de mobilité, tellement de pression migratoire qui en plus va augmenter considérablement. Enfin, c'est un des grands défis des décennies à venir. C'est vrai que ça va être très difficile à mettre en place.
Plus le climat.
Mais on voit avec ce qu'évoquait Jean-Louis, effectivement, que c'est compliqué. C'est très, très compliqué de dessiner les contours de ce qu'est l'immigration. Oui. Effectivement, l'immigration clandestine arrive tout de suite, Frédéric Dabi. Ce sera quand même le sujet. Il semblerait que le président de la République ait dit il faut être vigilant sur l'immigration. Ce sera le sujet de 2022. C'est ce qu'il aurait dit en petit comité.
Ça ne sera pas le sujet. D'ailleurs, il faut être très prudent sur quels seront les sujets de 2022. En tout cas, c'est un sujet dont les Français parlent, dont les Français se saisissent, qui reste relégué derrière les questions économiques sociales, qui reste relégué derrière maintenant la question environnementale. Pour autant, même si les Français n'éprouvent pas, ne conceptualisent pas en termes de grands emplacements, dans certaines zones, il y a une vraie pression et le sentiment chez beaucoup de Français qu'ils ne sont plus chez eux. Donc c'est un sujet quand même qui...
Surtout d'une immigration non maîtrisée.
Non maîtrisée, voilà. Très très clairement, ce n'est pas pour l'instant le sujet.
Est-ce que vous avez une idée
quartiers,
du coup...
Enfin, dans ces quartiers, ce n'est pas des émigrés, hein, ce sont des Français.
Oui. Mais ce n'est pas comme ça que c'est perçu
par les Français. Dans le coût et les économies de l'État, est-ce que vous avez une idée de ce que représente le coût voilà.
Je ne suis pas spécialiste de ces questions. On a tous en tête le livre célèbre de Bernard Stasi, L'immigration, une chance pour la France.
Oui,
il y a différentes polémiques sur certaines, 84, sur des personnes qui disent que entre le ratio coût-bénéfice de l'immigration est très largement en faveur du bénéfice. D'autres, et c'est le discours du Rassemblement national, l'immigration coûte énormément cher, comme l'Union européenne nous coûte cher. C'est un élément du débat politique et je ne saurais trancher là-dessus.
Oui, apparemment, il y a effectivement aussi un problème de quand on décide d'expulser les clandestins. Sur 10 expulsions, il n'y en a que 6 qui sont...
C'est sur la question du droit d'asile que la France est une exception, où il y a des difficultés d'expulser les personnes déboutées qu'il reste. Et c'est ça aussi qui fait que... Il y a un appel d'air plus fort en France qu'ailleurs.
Moi, je suis assez d'accord avec l'auditeur. Pourquoi le gouvernement, la veille des vacances, remet ce sujet-là, qui est un sujet qu'on connaît très bien au Rassemblement national? Donc, pourquoi le gouvernement fait ça? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Moi, je le pense.
Oui, vous dites c'est électoraliste.
Il y a toujours une stratégie.
Vous vous dites c'est
électoraliste. Parce que je suis d'accord avec Frédéric, le problème, il n'est pas là. Il est surtout au domaine social, qui n'a pas été réglé. Et je voulais remercier d'ailleurs Sophie de Menton pour nous avoir invités en tant que liste potentielle gilets jaunes à éthique. Non, c'est sérieusement le problème des gilets jaunes n'est pas réglé. Et effectivement, malgré le fait que dans le grand débat...
Quel rapport avec l'immigration? C'est-à-dire que c'est pour mettre la poussière sous le tapis,
On parle plus du social, alors que le fond du problème, et Frédéric vient de le dire, encore aujourd'hui, c'est le problème social qui n'a pas été réglé. Sans parler du domaine démocratique, où on a repoussé
Là où moi je vois un intérêt quand même à la question des quotas par pays, c'est
qu'il y a
des besoins.
Quotas,
non, mais il y a des besoins économiques, notamment salariaux, qui sont terribles. Vous prenez, il y a des métiers dans la petite enfance, dans la restauration,
la boucherie,
la médecine, où les employeurs ne trouvent pas de Français présents en France. Ou d'étrangers présents en France qui veulent répondre à ces besoins. Donc peut-être faut-il, dans une politique économique internationale mieux faite, pouvoir recruter à l'étranger, mais très en amont, et vraiment sur des modes de recrutement extrêmement organisés,
les travailleurs détachés, les travailleurs détachés, ça marche quand même.
Là, la politique des quotas, je trouve que ça pourrait être utile.
Oui, mais les travailleurs détachés, c'est quand même un système où ça correspond exactement à ça.
Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler du service national universel qui est lancé aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez lu un peu les contours de ce qui va... Pas les contours, d'ailleurs, le projet en lui-même, puisqu'il y a 2000 jeunes de 16 ans qui vont l'expérimenter, à partir d'aujourd'hui. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. On parle du service national universel qui est lancé aujourd'hui. C'est une expérimentation dans le but de concrétiser ce projet qui est très cher au chef de l'État. Un service national universel avec des objectifs qui sont très ambitieux à terme pour tous les jeunes. Donc c'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Ce matin, Gabriel Attal expliquait un petit peu comment ça allait se passer. Donc pour cette première édition, 2000 volontaires de 15 ou 16 ans ont été sélectionnés sur près de 4000 candidats. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même une certaine mobilisation. Donc le principe, uniforme, bleu marine, deux cocardes, levée des couleurs, chant de la Marseillaise à 8h, hébergement en maisonnée regroupé par 5 au sein d'une compagnie. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne chose?
Ah, moi, je suis totalement
pour. C'est 12 pour. Jours. Est-ce que c'est assez 12 jours? C'est vraiment la question qu'on peut se poser.
Mais déjà le principe. Possible, déjà le principe. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. On est dans un monde de plus en plus individualiste. On est dans un monde où les jeunes, contrairement à ce qu'on dit, sont très demandeurs de sens, d'engagement, de sortir de chez eux,
d'avoir
d'autorité également. Je suis tout à fait d'accord. Et il vaut mieux que ce soit la République qui donne cette autorité qu'une religion ou je ne sais autre quel mouvement. Donc moi, je trouve que c'est une excellente idée. Après, seulement 2600, pourquoi une expérimentation ? Ouais. Non, moi je pense qu'il faut y aller, il faut le faire. Ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut que les jeunes comprennent le sens du collectif, comprennent le sens de la République, comprennent le sens des valeurs, si on veut que les jeunes, parce que parmi les 2600, il y a beaucoup de décrocheurs qui viennent des banlieues, des quartiers défavorisés, les territoires perdus de la République.
Mais pour eux, on
n'imagine pas ce que ça représente pour un jeune qui n'est jamais sorti de sa banlieue, que de pouvoir aller passer 12 jours, ce serait mieux que ça dure 20, 30, 40, 50, mais de sortir de chez lui.
Donc rétablir le service militaire, quoi. En gros, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Mais un peu de militaire, pourquoi pas, un peu de service civique, pourquoi pas, mais de sortir, de connaître un nouvel horizon républicain, avec d'autres personnes qu'eux-mêmes et que ceux qui côtoient tous les jours.
On a un auditeur, Sam, qui est en ligne avec nous. Bonjour, Sam.
Oui, allô?
Oui, on vous écoute. Vous êtes militaire vous-même, c'est ça?
Alors, plus maintenant. Alors, j'ai fait partie de la première promotion du service militaire volontaire de la région parisienne. Donc, je crois que je peux vous apporter un avis qui peut être intéressant.
Oui.
J'ai fait, du coup, partie des décrocheurs. Alors, de base, je m'excuse parce que j'ai la mâchoire bloquée, donc... J'ai subi une opération. Mais donc voilà, j'ai fait partie des décrocheurs à l'époque. Je me suis engagé 21 ans au service militaire volontaire parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et j'avais été plusieurs emplois et c'était vraiment pas... Ça n'avait pas abouti.
Ouais.
Et donc, je me suis engagé dans ce tout nouveau service militaire volontaire qui venait d'être ouvert. Et ça a été une expérience qui... J'y suis resté donc pendant un an et demi, donc un an renouvelable une deuxième année. Et là, au bout de la deuxième année, en fait, on peut se permettre de se réinsérer tout seul, soit dans un diplôme, soit dans une alternance, ce que j'ai fait, moi, une alternance.
Donc ça a été utile pour vous, ça vous a donné, en tout cas, un petit coup de fouet ou... Plus voilà, confiance plus... en vous.
Alors, je vais vous dire,
coup de fouet pas bien choisi.
C'est plus qu'un coup de fouet, là. Ça a vraiment été... En fait, ça a été... C'est même plus un pied à l'étrier. C'est-à-dire que ça m'a propulsé ailleurs dans un...
Quelque part où je
ne savais vraiment pas que je
pouvais y aller. Vous imaginez que c'était possible. Merci, Sam. Sam, il nous reste assez peu de temps. J'aurais qu'on débatte, mais c'est intéressant, effectivement, votre témoignage, de dire que pour vous, ça a changé quelque chose. Nos auditeurs ne sont pas du tout favorables. Encore du gros pipeau pour le vivre ensemble. L'État va surtout ficher les jeunes. Nouvel endoctrinement du gouvernement. N'importe quoi, ça ne sert à rien. Frédéric.
En tout cas, une enquête récente de l'IFOP, faite pour plusieurs associations de jeunes, notamment l'ANASEJ, où on a présenté aux jeunes tout ce qu'il y avait dans ce service, notamment cette période obligatoire, avait montré une adhésion extrêmement forte des jeunes, y compris pour le caractère obligatoire des 12 jours, même si c'était un petit peu moins fort et ça faisait baisser un peu l'adhésion globale. La question, c'est, le volume, les moyens. 2600 jeunes, c'est très peu. Et puis, il y a une structure actuellement qui donne des très bons résultats, qui s'occupe des jeunes décrocheurs à un étiage équivalent, ce sont les EPID. On annonce très récemment.
Ce sont des
établissements militaires et civils où des décrocheurs sont aidés, sont formés, apprennent un métier. Ça donne vraiment des très bons résultats. Pour que le SNU puisse se distinguer et apparaître. Il y a aussi l'agence du service civique. Il y a les volontaires du service civique qui aussi font des choses extrêmement intéressantes. Pour que le SNU trouve sa place, il faut effectivement que, comme ça a été dit par Michel Taube, une sorte de montée en puissance et que ça apparaisse comme un service National bis, le souci, et il faut le dire, c'est le côté financier. Emmanuel Macron avait promis pendant sa campagne que les cadres pourraient une fois tous les 5 ans démissionner avec indemnité. Ça a été également enterré, puisqu'il y avait bien sûr une question de coût particulièrement aiguë.
D'accord. Sophie.
Je pense que c'est une très très bonne chose, très utile. Et au-delà des parce qu'on pense toujours aux décrocheurs, aux quartiers, etc. Je pense que tous les jeunes ont besoin de ça. Absolument tous, y compris des petits bourgeois. Ne serait-ce qu'il y a un truc à détail, ils n'ont pas de téléphone portable pendant la journée. Ouais. Eh ben, je vais vous dire, ça va leur faire du bien pendant 15 jours. Et ensuite de ça, il y a des prolongements possibles. Je crois que ce test est essentiel. Je pense que c'est un retour. Je pense au contraire que c'est vraiment pour le jeune moyen, enfin le moyen jeune d'un milieu,
pour tous les jeunes,
pour tous les jeunes, que c'est important. Et nous sommes au sein d'Éthique, le mouvement que je préside, en train d'essayer de proposer, parce que d'abord ce serait gratuit et je pense que c'est bien, pourquoi pas 2 jours en entreprise pour leur apprendre aussi faire quelque chose d'utile à l'entreprise. On avait pensé à ça.
On voit déjà les stages,
mais non, c'est pas un stage, ce serait pas du tout un stage, ce serait essayer de faire quelque chose qui soit utile, se rendre service à quelqu'un dans l'entreprise.
Pourquoi dans l'entreprise ? Déjà, dans la société, ce serait utile, et dans l'entreprise, enfin, vous qui représentez des entreprises, ça m'étonne de vous, parce que
ah non, mais vous
c'est
savez
plus
pourquoi
perturbant qu'autre chose dans l'entreprise quand on
c'est très possible, mais on a un devoir civique aussi, et je vous signale que tous les jeunes qu'on voit, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Quand ils débarquent de la fac...
Moi, dans mon école, on avait des chefs d'entreprise
qui venaient... Il y a des
chefs
de troisième, quand même.
Il y a des gens qui venaient nous parler de leur métier, que ce
mais
soit...
Ouais,
des,
nous le faisons, il y a 100 000 entrepreneurs qui est exceptionnel, mais je pense que dans le cadre d'un service un peu plus long, je pense qu'un ou deux jours en entreprise peut être aussi un pied à l'étrier.
Déjà c'est, l'objectif, c'est développer une culture de l'engagement, accroître la cohésion et la résilience de la nation.
C'est le cas aussi dans l'entreprise.
Garantir un brassage social, Jean-Luc Toulis.
Voilà, les opposants
disent que ça va coûter très cher et que c'est de l'argent qu'on va prendre quelque part.
On
ne
ira
pas dans l'enseignement supérieur. Ce que...
Donc sur l'impôt sur les grandes fortunes, non. Je pense que c'est très utile. Moi, personnellement, qui étais une famille d'ouvriers, mais j'étais quand même fils unique, un petit peu bourgeois, quand j'ai fait mon service en Allemagne avec des ch'tis qui, en fin de compte, fumaient et buvaient de la bière à tire-larigot, bah, si vous voulez, le brassage de ça...
Vous êtes mis à
fumer. Non, pas du tout. Au contraire, ça va déterminer.
Enfin,
mais je pense que c'est utile, le brassage.
Bien
parce
sûr.
Parce qu'on ne se connaît pas, on a des idées, peut-être même favorables, mais tant qu'on ne côtoie pas ces personnes-là.
Mais est-ce qu'on sait qui sont ces 2000? Claudine, elle pose une question très juste. Le problème, justement, c'est de savoir s'il y a des jeunes bourgeois dans les 2600 qui ont été sélectionnés, car sinon...
Je suis d'accord avec Sophie, c'est pour tous les jeunes. Jeunes, et pas 12 jours, c'est insuffisant. Alors peut-être qu'un an, moi j'étais un an à mon époque, peut-être que... 6 mois, mais ça peut pas être beaucoup moins de 6 mois.
Avant,
c'était trop long, il aurait fallu changer, mais c'est une gaffe de Chirac, disons-le. Ouais. C'est une vraie gaffe de Chirac. Ouais. À l'époque, c'était moins aberrant parce que le service était trop lourd de le supprimer.
Une faute.
Qui a été quand même plébiscité par les Français à l'époque. C'est une des rares mesures de la première partie.
Aujourd'hui, Frédéric, ils disent quoi? Ils disent quoi, les Français?
Quand on leur propose un retour au service militaire, j'ai pas souvenir d'avoir posé la question récemment, mais quand on voit l'intérêt pour l'agence du service civique, quand on voit l'intérêt pour le service national, c'est clair qu'il y a une nostalgie, et notamment cette idée que vous souleviez en termes de brassage et en termes de creuset républicain.
Et surtout que depuis 30 ans, il y a des ghettos qui sont construits dans notre pays. Il n'y a pas 36 000 manières
de casser les ghettos,
que d'offrir aux jeunes, et les ghettos, ça peut être les ghettos des quartiers, comme les ghettos, les quartiers c'est bourgeois, les ghettos sont partout. Il n'y a pas d'autre meilleure manière que de proposer au moins une fois l'expérience d'aller voir un autre horizon pour donner envie à certains de sortir de leur ghetto.
Mais Gabriel Attal dit que ça va coûter quand même 2000 euros par jeune. Rapporté aux 800 000 jeunes, ce serait donc 1,6 milliard
par an. Oui, c'est un investissement
c'est un choix de société.
Et disons quand même pour Chirac que le service tel qu'il était sous Chirac était une aberration. Donc c'est pas le même
c'est plus le même aujourd'hui, sauf qu'on a évoqué le problème des casernes, de l'endroit où on va les accueillir. Là, 2000 jeunes, on a trouvé des lieux, mais si ça venait à se généraliser, ça poserait un certain nombre de
vrais problèmes.
Et ben voilà, on a fini cette émission, on était presque d'accord. Grosso modo, Claudine nous dit 3 à 6 mois, ce serait bien. Caroline nous dit c'est fou comme croire que tous les jeunes sont éloignés de la société. On fait du buzz? Non, je pense pas, Caroline, qu'on fasse du buzz. Je pense que vous avez entendu le témoignage de Sam, pour qui ça a été important de voir d'autres gens, de voir d'autres horizons. Et
je voudrais rajouter quelque chose, c'est que moi qui suis encore pour ce service militaire, j'ai fait de la prison. service militaire, parce que j'ai voulu créer avec d'autres un syndicat des appelés. Mmh. Vous voyez ?
Mmh. Et malgré
cela,
du newf, comme on disait,
voilà, du newf pendant 3 mois.
Ah oui.
Mais en fin de compte, c'est une bonne expérience. Quoi qu'il arrive.
Et ben, il n'y aura pas de syndicat du SNU parce que ça dure que 12 jours. C'est trop.
Mais pour l'instant, vous avez possibilité. Lisez les propositions.
Les petits toulis, on pourrait en avoir un qui émerge.
Et bon courage à ceux qui passent le bac. Hein. Aujourd'hui, ils sont en train de plancher, mais il y aura d'autres épreuves à suivre. Vous êtes nombreux à avoir des enfants qui vont passer le bac. Alors bonne chance à eux et à vous, parce qu'être parent de bachelier ou de futurs bacheliers, c'est pas facile.
À midi, on va avoir les coups de fil.
Allez, bonne journée à vous, à demain.